La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Imo et Radio Territoria.
Et vous écoutez Radio Imo, Radio Territoria, vous nous regardez également aussi peut-être, il est 15h30. Merci de nous suivre, nous sommes en direct à l'Hippodrome de Paris-Longchamp où se déroule la 6e édition de la REF, c'est la 2e journée. Nous sommes ravis de vous faire vivre cet événement en direct avec ici de nombreux invités qui nous rejoignent. Je vous présente le nouvel invité dans un instant. Juste à mes côtés également Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Comment ça va?
Mais ça va super, on passe un super moment.
C'est toujours un très bon moment d'être ici avec le MEDEF.
Complètement, avec de nombreux invités qui viennent ici. Sylvain Lévy-Valency, donc directeur des antennes de Radio Imo et Radio Territoria. Et moi, je suis ravi de recevoir Pierre Gattaz. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Alors, tout le monde vous connaît ici, évidemment. Ancien président du MEDEF, président directeur général de Radial, président fondateur de l'association Y Croire et Agir. Et c'est dans ce cadre que l'on va se parler aujourd'hui. Tiens, une première question comme ça. C'est quoi les initiatives concrètes mises en place par l'association Y Croire et Agir pour favoriser justement l'insertion professionnelle des personnes qui sont finalement le plus éloignées de l'emploi?
C'est notre raison d'être. En fait, on commence dans les territoires. On œuvre dans les territoires, territoires dévitalisés, les Hauts-de-France, pour commencer depuis 5 ans. Et en fait, on prend des gens qui sont très fragilisés au chômage, les RMistes, que Pôle emploi, les missions locales nous amènent. On fait des formations de 3 jours et de 2 semaines. Et ce qui est formidable, c'est qu'on en reparlait récemment encore, mais humainement, vous voyez des gens qui sont vraiment cassés par la vie et qui, en 3 jours, vous leur redonnez de l'estime d'eux-mêmes, de la confiance, et ils sont prêts à aller se retrouver devant un patron pour les embaucher. Et puis, on les aide à créer leur entreprise s'ils veulent être auto-entrepreneurs. Et parfois, ils changent de formation. Et les résultats qu'on a, c'est que sur 1400 personnes qu'on a formées depuis 4-5 ans, il y en a 85% qui se sont mis en marche. La moitié d'entre eux ont retrouvé un job. Donc c'est possible, et donc en fait on fait ça, c'est de sur mesure, ce sont des petits groupes très bienveillants, et en fait on redonne de la confiance aux gens qui l'ont perdu, on leur redonne un petit réseau, des conseils pour aller voir des patrons, et on essaye d'associer des patrons locaux au projet, parce que les patrons locaux ils cherchent tous à embaucher, ils cherchaient, peut-être un peu moins maintenant, mais encore, et il y a du chômage par ailleurs, donc on fait le pont, la jointure entre ces chômeurs, qui sont seuls, qui sont isolés, qui n'ont pas de réseau, et la demande. Et ça marche, et on est très contents, parce que humainement, c'est ça qui est le plus formidable, je trouve. Humainement, vous avez des gens qui sont vraiment cassés, et vous les revoyez avec le sourire, les yeux qui pétillent.
Ouais, c'est super riche.
Et des petits témoignages que j'ai postés sur,
sur
LinkedIn. Et on a un site LinkedIn, etc. Et en fait, on essaie de poster des petites capsules de témoignages, souvent des femmes, qui ont retrouvé le goût de la vie. Et l'impact sur leur famille aussi est très important, sur leur environnement, sur leur mari, parce que quand on est cassé, déprimé, etc., tout le monde en prend plein la figure à la maison. Ça va de mal en pis.
Évidemment.
Et donc voilà ce qu'on fait, et on est très heureux de le faire.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous avez pris une problématique qu'aucune politique publique n'a su appréhender depuis plus de 50 ans, avec des chiffres qui sont extrêmement concrets. Vous avez démontré, Pierre Gattaz, que ça fonctionne. Oui. Mais c'est quoi la recette, en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, finalement, vous, l'entrepreneur, qui avait un track record quand même plutôt successful, vous vous êtes dit, je vais m'investir encore plus. Vous êtes déjà investi dans le monde syndical. Vous êtes investi auprès de l'entrepreneuriat. Et maintenant, vous avez, avec cette association, cet engagement.
En fait,
comment vous l'expliquez?
J'ai toujours été terrifié, très angoissé par le chômage en France et la pauvreté que ça induit. Quand j'ai au patron du MEDEF en 2013, il y avait 10,5% de chômage. C'est pour ça que j'ai créé le 1 million d'emplois. C'est possible à la condition que
vous
associez
le PINS.
Et c'était quand vous associez les convictions profondes sur une cause qui est la mienne en disant mais on ne peut pas rester à 10,5%, et voilà ce qu'on peut faire, et voir les réformes qu'il faut faire, vous donner un cap. Le cap, c'est de créer de l'emploi. Et pour atteindre ce cap, il faut faire des réformes. Donc c'est plus facile, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On parle de pouvoir d'achat, je suis complètement d'accord, mais le pouvoir d'achat, ce n'est pas en augmentant le SMIC de atteindre 15%, parce que là, vous anéantissez les PME, les TPE en 3 semaines. C'est en faisant des réformes qui vont bien. Et donc, je pense que ça, c'est important. Et mon obsession de toujours, c'est des territoires dévitalisés qui font monter de la colère sourde, qui font monter des extrêmes, qui votent
très juste.
Mal. Ce sont des gens, des gens en grande difficulté, donc socialement, c'est pas terrible. Et donc, je dirais que redonner par le concret, vous voyez, par le concret, c'est de l'action concrète qu'on fait, par une formation sur mesure, par des groupes de 15-20 personnes, ben on y arrive. Et en fait, faut se mettre en meute. Moi, j'associe les associations sociales du coin, j'associe le MEDEF, les MEDEF locaux, ces PME locaux, les patrons, et puis l'État avec Pôle emploi et les missions locales. On fait ça ensemble, on a la même cause, la même raison d'être. Et ben, quand on est ensemble, indépendamment de la politique, des luttes des classes et tout le reste, et ben, on fait du super boulot.
Ouais, je comprends.
Et puis vous avez des êtres humains en face de vous.
Bien sûr.
Quand c'est des êtres humains avec la... Oui, je vois des gens qui me touchent énormément. Les premières heures, parfois, c'est dramatique. Le type, on se dit, il va se mettre par la fenêtre. C'est pas possible. Il a perdu sa femme, ses enfants, ses machins, il est au chômage. Enfin, c'est dramatique. Puis progressivement, vous les voyez se transformer par la formation, l'écoute, la bienveillance, les conseils qu'on leur donne. Le petit réseau. Ben voilà, c'est du concret, c'est ce qu'on aime quand on est entrepreneur, on aime passer de y croire et agir, hein. on y croit de ce qu'on fait, et agir, on agit. On n'est pas dans le rêve, le cumulonimbus là-haut, et on est sur le terrain avec les gens.
Quel a été le moteur de votre engagement, Pierre Gattaz?
Ben, écoutez, ça a commencé avec Moussa Camara, figurez-vous, des déterminés. Quand j'étais patron du MEDEF, la première année, il est venu me voir, il avait 27 ans, un jeune de Morlieu, avec sa gouaille et son empathie, il me dit, monsieur le Président, voilà, j'aimerais former les jeunes de banlieue à l'entrepreneuriat. Je lui ai dit, c'est super votre idée, je vais vous aider au MEDEF. Et donc, ça a marché comme ça. Donc, je lui ai ouvert les réseaux, les portes, les salles de réunion du MEDEF. On a bossé pendant 4 ans ensemble, 5 ans. Et puis, Moussa est parti de sa vie avec les déterminés qui ont très bien marché. Et c'est là où je me suis rendu compte de l'impact d'une formation sur mesure. Pareil, on recevait des jeunes de quartier, parfois un peu la casquette sur la tête, etc. Tous charmants, mais un peu défensifs, pas souriants. Et puis, le projet d'entreprise était là chez eux, et derrière la niaque. Et en quelques jours, quelques semaines, c'était des jeunes transformés. Ils avaient le projet d'entreprise en main, ils avaient le sourire, on les a pitchés sur la scène du MEDEF, dans l'amphithéâtre. C'est à pleurer. À pleurer parce que c'est des gamins de Sarcelles, de Saint-Ouen, etc. Et c'est la vraie vie. Et par l'entrepreneuriat, et donc l'énergie, le projet, ce sont des gens totalement transformés. Je me suis dit, bon, dans les banlieues, il y a Moussa s'en occupe, il y a plein d'associations, mais par contre, dans les territoires perdus de la République, il n'y a personne.
Territoires perdus, vous avez bien raison de le dire.
Et on a commencé par Maubeuge et Fourmis que personne ne connaît.
C'est où ça?
30%, c'est dans les Ardennes.
Ah, les Ardennes.
C'est Hauts-de-France. J'ai croisé Xavier Bertrand un jour, au début de mon association, qui m'a dit, mais Pierre, il faut que tu viennes dans les Hauts-de-France. Moi, j'ai des endroits perdus. Je lui ai dit, c'est quoi Fourmis, c'est où? Je ne savais pas où c'était.
Ouais. C'est un endroit merveilleux.
Dans la... Ils sont même parfois au-dessous des radars sociaux.
Mais oui, mais en fait, il n'y a même pas d'autoroute, il n'y a rien pour y aller. Ouais. Et donc, eux, ils restent en plus à Fourmis, parce que pour aller se déplacer ailleurs, c'est compliqué. Donc, ces petites routes départementales, c'est magnifique. Hein, c'est la forêt partout, etc. Ce sont des villes qui ont été très puissantes. Il y a 40, 50 ans, il y a eu du textile, de l'industrie.
Oui.
Et puis, qui ont été complètement abandonnées. Et les gens sont à 30% de chômage. Donc, vous avez... Et je me dis, vous savez, quand vous traversez l'Aisne aussi, comme ça aussi, ce que j'ai fait quand j'étais au MEDEF, je voyageais beaucoup dans les départements, la région, et j'ai traversé l'Aisne un jour, le département de l'Aisne. Et vous avez des petits villages avec des croix sur les commerces. Vous traversez des villes sans fantômes. Je dis, c'est pas possible, c'est pas la France.
Non.
Parce que vous faites 50 km ou 100 km à l'est, vous arrivez au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Ouais. Et là, ils ont 3% de chômage. Mmh. Et nous, dans ces pays-là, c'est 20 ou 30.
Un vrai sujet, hein,
voilà, c'est un vrai sujet. Et tout ça induit de la frustration, de la colère, locale. Mmh. Et induit, je dirais aussi, y compris des votes extrêmes.
Mais c'est là où les creusets des votes extrêmes. Se sent le plus. Vous citez le Nord, je peux vous citer par exemple Noyelles-Godault ou Rethel dans les Ardennes qui aujourd'hui ont des scores absolument phénoménaux qui s'expliquent par la précarité sociale. Moi j'ai envie de vous poser cette question. Vous, l'homme engagé aussi dans la cité au sens politique noble du terme, d'où ça vient tout ça? Est-ce que c'est sans faire de procès politique, est-ce que c'est la faillite ou la défaillance des politiques publiques menées par l'hyperpolarisation des métropoles ou l'hypermétropolisation qui finalement a mis au rencard des villes moyennes et des petites villes qui sont devenues aujourd'hui quasiment des villes fantômes? Et est-ce que cette politique de désindustrialisation du pays, vous avez été d'ailleurs, rappelez-vous, l'un des premiers à alerter sur le phénomène, eh bien, on en paye aujourd'hui les conséquences.
Moi, je crois que c'est multicritère et multicause, si vous voulez. On a eu l'époque gaullienne et pompidolienne. Pompidou qui a fait des grands projets, une vision pour le pays, très empathique avec le peuple français d'ailleurs, et qui a réussi à développer les autres trucs d'information, le nucléaire, etc., etc. Bon, donc il y avait une vraie vision pour le pays, partagée, et c'était les 30 Glorieuses ou la fin des 30 Glorieuses. Et puis après, curieusement, je dirais que tout ça s'est évacué. Et je pense qu'en fait, nos politiques ont péché par l'absence de compréhension de l'entreprise et de l'économie, et de la microéconomie. Et y compris dans les écoles, sur les Sciences Po, l'ENA, etc., on vous parle d'économie, on vous enseigne Alexis de Tocqueville, Adam Smith, Keynes, Voltaire, Rousseau, c'est formidable. Mais je ne gère pas Radial avec Voltaire et Rousseau ou Alexis de Tocqueville, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, on enseigne extrêmement mal l'entreprise. Culturellement, la France est en retard. Et je trouve qu'il y a eu des mesures qui ont été faites qui font que on a dévitalisé, parce que par exemple l'ISF, moi j'étais un grand combattant de l'ISF, mais pourquoi? Parce que mes 20 concurrents de Radial, en 40 ans, je les ai vus partir se vendre et eux partir en Suisse ou au Luxembourg. Pourquoi? Parce que l'ISF a frappé les boîtes familiales. À l'époque, il n'y avait pas encore les lois Dutreil et les plafonnements.
Bien sûr.
Et donc, ça frappait, si vous voulez. Alors, et j'ai constaté, si vous voulez, qu'on avait divitalisé comme ça. On n'a plus que 5 000 ETI familiales en France. En Angleterre, en Allemagne, ils sont entre 10 et 12 000. Donc, on a perdu des tas d'usines, des boîtes familiales qui étaient implantées dans les territoires. Et donc ça s'est fait, si vous voulez, sur 40 ans, sur des conneries, excusez-moi, politiques politiciennes, dont on paye encore aujourd'hui le prix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très remonté contre, je dirais, les ce qu'on entend à la radio aujourd'hui et dans certains médias, si vous voulez, mais avec des réformes totalement ubuesques, c'est totalement anti-économistes et qui sont inspirées, excusez-moi, d'extrême-gauche, de LFI.
Bien sûr.
Puisque j'ai pratiqué la gauche social-démocrate de Hollande et de Valls, que j'ai félicité, que j'ai encouragé, que j'ai félicité, parce qu'ils ont eu le courage de faire des réformes, CICE, etc. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet politique aujourd'hui, qu'il faut que notre gauche soit social-démocrate, comme les Allemands l'ont fait avec le Bad Godesberg en 59. On ne veut plus trotskiste du marxisme, mais l'économie de marché, l'entreprise, ça fonctionne. C'est là où on donne de la dignité aux gens
et qui est c'est très important ce que vous dites. En fait, un facteur d'émancipation,
bien
l'extraction
sûr.
de sa condition,
bien sûr.
Et finalement une lutte opposée du déterminisme social.
Mais c'est cool, on est de plus en plus assisté en France. En fait, on aide les gens, et c'est le proverbe de Lao Tzu qui a dit « Si tu donnes un poisson à un homme, tu nourris une journée. Et si tu lui apprends à pêcher, tu nourris toute sa vie. » Ben, nous, en France, on a tendance à donner des poissons à tout le monde. Mais il y a quand même des pêcheurs, il y a quand même des gars qui les mettent dans les frigos, il y a des mecs qui distribuent, il y a des mecs qui transportent, et puis il y a des mecs qui servent. On pense, là, le type, il a le poisson. Alors, il est content. Je ne dis pas qu'il ne faut pas enlever ça pour des populations très défavorisées que
mais
je
bien
connais.
Sûr, bien sûr.
Mais par contre, si vous voulez, il faut... Et moi, je vois ces gens, si vous voulez, que je côtoie, ils sont super contents de se dire « je vais refaire quelque chose de ma vie ». Ils sont super contents vis-à-vis de leurs enfants. Là, on a eu un témoignage d'une dame qui a deux jumeaux autistes. Et elle nous a dit « votre formation était formidable de 3 jours, ça m'a transformé la vie. Et j'ai un rapport différent avec mon mari et j'ai un rapport différent avec mes enfants parce que j'ai retrouvé un cap, une raison d'être. » Donc, si vous voulez, et le travail permet ça. Et donc, je trouve qu'en fait, on a maltraité le travail, on a maltraité l'industrie, les usines, qu'on a considéré polluante, bruyante, sale, etc. Mais vous voyez, pendant ce temps-là, les Allemands, ils ont gardé leurs usines, leurs boîtes familiales, les
bien
Autrichiens,
sûr.
Les Suisses, les Scandinaves, tous socialistes qu'ils sont, ils ont mis l'entreprise et l'industrie au top de leurs priorités. Mmh. Les territoires dans ces pays-là marchent, on a revitalisé et il n'y a pas de chômage.
Est-ce qu'on peut réparer le pays aujourd'hui?
Oui, fondamentalement.
Vous restez optimiste.
Mais je vais vous dire, il faut garder un espoir de folie. En 39-40,
oui, oui.
Vous voyez, on se disait, putain, c'est foutu. Hein.
Ouais, bon.
Eh ben non, c'est jamais foutu. Mais c'est pour ça que le MEDEF et les entrepreneurs que nous sommes, et tous ceux qui sont proches de ces idées-là, mais vous savez, je l'ai dit encore hier sur une autre radio, je ne connais pas l'extrême-gauche qui a réussi dans un pays. Quand vous regardez les 30 premiers PIB par habitant, parce que c'est PIB par habitant
oui,
qui
oui,
compte.
Bien sûr.
Nous, on est 23e, ce qui n'est pas terrible. Devant, on a tout le monde, on a la moitié de l'Europe, et on a la Suisse, le Pays-Bas. La Suisse est incroyable.
Oui, oui.
Et bien, ça peut être des gens de gauche, sociaux-démocrates, qui ont accepté l'entreprise, l'économie de marché.
Oui, bien sûr.
Et moi, je ne fais pas de la politique quand je dis ça. Je dis, les gars, mais on s'en fout que vous soyez à gauche ou à droite. L'important, mais cassez pas l'outil de création de richesse et de l'emploi,
bien sûr.
Qui apporte du travail et de la dignité humaine aux gens, et qui revitalise. Donc nous, on est d'accord.
Parce que vous, Pierre Gattaz, vous le prenez sous l'angle, justement, de l'enrichissement personnel. Quand je dis enrichissement, je ne parle pas d'argent. Culturel,
oui,
loisir.
Bien sûr.
Parce qu'à partir du moment, effectivement, où vous favorisez cette émergence, vous donnez aussi accès à un monde de culture, à un monde de loisirs, des personnes qui étaient dépossédées par le déterminisme social, la géographie par exemple, qui les a condamnées, puisque bien évidemment, quand on est à 60 km des bassins d'emploi, on ne se déplace pas. Et on vit finalement confiné dans cet état, dans cet état-là. Est-ce que quelque part, justement, ça c'est la question, vous qui connaissez bien la jeunesse aujourd'hui, il n'y a pas quelque part dans l'entrepreneuriat une nouvelle forme de... Je me risque à le dire, mais une forme de spiritualité, je m'explique. Une forme de quête, de but, qui fait qu'on se réalise dans l'existence. Un objectif, pas uniquement l'argent, pas uniquement la réussite matérielle ou la possession, mais une façon de conduire son existence avec une certaine réalité, c'est-à-dire de détermination complète.
Mais bien sûr, et c'est ça qui me rend aussi optimiste, si vous voulez, c'est que de toute façon, un pays est toujours capable de se réformer, et je pense que la France l'est. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est que l'image de l'entreprise a changé depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Elle est devenue beaucoup plus positive. Et troisièmement, nos jeunes qui voulaient, il y a 30, 20 ou 30 ans, être tous fonctionnaires en majorité, veulent, pour une grande majorité d'entre eux, être entrepreneurs. Le mot entrepreneur est devenu très positif. J'ai croisé Jean-Claude Mailly récemment, à plusieurs reprises, qui était ancien patron de Force Ouvrière, donc il n'est pas un enfant de cœur sur le plan libéral, on va dire ça comme ça. Eh bien, il est entrepreneur, il a créé sa boîte de conseil. Bon, entrepreneur, Jean-Claude, je suis content, je suis entrepreneur. Bon, Arnaud Montebourg, qui n'était pas non plus le plus libéral que j'ai connu comme ministre il y a 10 ans.
C'est clair.
Eh bien, il est multi-entrepreneur, très clair, en disant je jette des entrepreneurs, etc. Donc, si vous voulez, je crois que là, il y a une dynamique très intéressante qui s'est opérée depuis quelques années en France, qui fait que les gens veulent être entrepreneurs, encouragent l'entrepreneuriat. Et quand on voit le succès de l'auto-entrepreneuriat du statut de Novelli, d'Hervé Novelli, qui a mis ça en place, je crois qu'il y a 800 000 auto-entrepreneurs tous les ans qui se mettent en place, eh bien, je trouve ça intéressant parce que les gens, en fait, ils veulent plus forcément être salarié à un moment de leur carrière, ils se disent pourquoi je ne serais pas mon propre patron. Mon propre patron, c'est d'être libre. Vous voyez. Et dans l'association Y Croire et Agir, eh bien, on a quand même 10 à 15% des gens que l'on voit qui veulent être leur propre patron. Et en fait, ils veulent être coiffeurs, ils veulent être manucure, ils veulent monter leur petite boîte auto-entrepreneurs, c'est possible.
Comment vous financez les opérations ?
Alors, on finance par des gens, par des dons, par des mécènes privés, par des mécènes d'entreprise, par les entreprises locales aussi qui nous aident et par l'État. Donc, en effet, on a un cocktail de financement et de subventions qui...
On peut dire à nos entrepreneurs... d'aider la fondation en faisant des dons.
Et croire réagir.
Ah, voilà, tout simplement. Un très grand merci,
Pierre Gattaz,
d'être venu sur ce plateau.
Merci.
Bonne ref qui se poursuit.
Merci
également à vous de votre fidélité. Nous sommes toujours en direct et on revient dans quelques instants. À tout de suite.
La REF, la rencontre des entrepreneurs de France. Un événement organisé par le MEDEF les 26 et 27 août 2024 à l'Hippodrome de Paris-Longchamp sur Radio Immo et Radio Territoria.